Bonsoir. La ville de Kinshasa doit environ 50 millions de dollars américains à plusieurs banques basées en RDC et à ses fournisseurs, d'après une enquête menée par Radio Okapi. La ville a pour cela mis en gage pour une longue période des recettes provenant des secteurs graphicole, tabacicole et sucrier perçues par la DGRK. Ainsi, les taxes dues à la ville de Kinshasa et perçues par ces banques sont retenues au titre des remboursements de ces crédits. Ces tableaux expliquent les difficultés financières auxquelles fait face la ville de Kinshasa pour financer les institutions provinciales. Comment analyser cette situation? Nous allons en parler avec Guy Matondo Kingolo. Il est ministre provincial des Finances, Économie, Commerce et IPMEA de la ville de Kinshasa. Bonsoir, monsieur le ministre Guy Matondo Kingolo.
Bonsoir, mon frère.
Jonas Tshombela, il est président de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir, monsieur Jonas Tshombela.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, analyste politique économique. Bonsoir, monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne siège pas depuis la plénière d'ouverture de la session budgétaire intervenue le 30 septembre dernier. Et pour cause, les députés provinciaux impayés depuis 3 mois refusent de prester et réclament leurs émoluments. La situation est pareille aussi bien pour le personnel du bureau de cet organe délibérant que pour le personnel des cabinets ministériels qui accusent entre 3 et 9 mois d'arriéré. Selon une enquête de Radio Capi, la ville de Kinshasa serait très endettée auprès des banques et autres fournisseurs, ce qui asphyxie son fonctionnement. On écoute cet entretien entre Innocent Olenga et Alain Hirong.
Bonsoir Innocent Olenga.
Bonsoir Alain Hirong.
Vous avez mené une enquête partant du refus des députés provinciaux de Kinshasa de siéger en plénière parce qu'ils accusaient des arriérés de leurs émoluments de 4 mois. Qu'en est-il exactement?
Oui, 4 mois c'était au début de la semaine passée, mais en milieu de la semaine, ils m'ont été libérés, ce qui fait qu'ils ont 3 mois impayés. Et cette situation est pareille pour le personnel de tous les ministères provinciaux qui accusent 9 mois d'arriérés des salaires.
Mais à quoi est due cette situation?
Il y a plusieurs raisons. Selon nos sources, la ville de Kinshasa est très endettée auprès des banques et autres fournisseurs à l'ordre d'au moins 50 millions de dollars américains et ne reçoit plus de découverts bancaires. Une autre raison, la production de la DGRK a baissé. Et elle peine à générer 3 millions de dollars lui assignés. Une autre raison, la rétrocession par le gouvernement central s'est fait prier et n'arrive pas au moment indiqué. Et quand bien même elle arrive, il est amputé des fonds de l'investissement plus importants que les frais de fonctionnement. À cela s'ajoute aussi les fonaires qui, selon nos sources, feraient aussi des caprices pour décaisser les fonds.
Alors, quelles sont les sources de production de la ville et elle produit à peu près combien d'argent mensuellement?
Toujours d'après nos sources, la ville de Kinshasa produit mensuellement en moyenne 5 millions de dollars américains, dont 3 millions de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, de DGRK, 1 million du Fonds National d'Entretien Routier Fonaire, 1 million de la rétrocession. Mais en principe, cette rétrocession devrait être plus si les fonds d'investissement faisaient partie. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Selon notre source, ces fonds d'investissement étaient jusque-là gérés par le gouvernement central, disons le gouvernement Matata Ponyo, ce qui a mis la ville en difficulté. Mais néanmoins, sur base de 5 millions, la ville a établi une clé de répartition de la manière suivante. Plus ou moins 587 000 dollars à l'Assemblée provinciale, plus ou moins 685 000 dollars au gouvernement provincial, plus ou moins 261 000 dollars comme rétrocession aux communes, 1 million de dollars à l'OVD et les restes, soit 2,5 millions de dollars, constituent les fonds secrets de recherche à la disposition du gouverneur.
Mais est-ce que cette clé de répartition est respectée?
Pas du tout. Si elle était respectée, on ne serait pas arrivé aux impayements des salaires et autres émoluments. Comme nous avons essayé de les démontrer avec la faible mobilisation des recettes de la DGRK, avec les caprices de la rétrocession, la ville est en difficulté.
Vous avez parlé d'une dette d'au moins 50 millions de dollars américains qu'elle aurait auprès de banques et autres fournisseurs. De quoi s'agit-il?
Donc, au gouvernement provincial, on essaie de relativiser Alain, mais les documents d'enquête de l'Assemblée provinciale l'éprouvent et cette dette n'est pas dans une seule banque. c'est dans toutes les banques à l'exception de la Finca. Et la grande difficulté de mobilisation des recettes, c'est que les grandes recettes d'origine brassicole, tabacicole et sucrière ont été déjà hypothéquées pour une longue période. Et l'argent emprunté au nom de ces taxes aurait servi à l'achat des véhicules anti-incendie et des bus de la défunte Red Transkin. Étant donné que la ville a des dettes des banques, celles-ci récupèrent leur crédit à chaque fois que les débiteurs de la ville versent l'argent dans les comptes de celles-ci. Et selon nos sources, les banques n'accordent plus de découvert à la ville, ce qui la mettrait davantage en difficulté. Voilà tout, Alain.
Merci Innocent Olenga et bonne soirée à vous.
Merci Alain.
Merci, Innocent Olenga, Alain Irung, Guy Matondo, Kingolo. Je rappelle que vous êtes ministre provincial des Finances, Économie, Commerce et IPMEA de la ville de Kinshasa. Vous venez de suivre ces reportages réalisés par Alain Irung et Innocent Olenga. La ville de Kinshasa, très endettée auprès de plusieurs banques et ses fournisseurs. Et comment vous en êtes arrivé à ces montants de 50 millions de dollars américains et qu'est-ce que vous en avez fait?
Ok, merci beaucoup mon frère. Je voudrais d'abord relever par rapport à l'intervention de notre frère qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont vrais et d'autres éléments qui sont fausses.
Quels sont les éléments qui sont vrais? Commençons par ceux qui sont réels, ceux qui sont vrais.
Bon, il a parlé de la faiblesse de capacité de mobilisation de la DGRK, ça c'est vrai. Il a parlé de la rétrocession qui ne respecte pas le temps de décaissement, ça c'est vrai aussi. Mais quant à la répartition, à la ventilation, telle qu'il est présente là, ce n'est pas ça. Ça c'est faux. Et par rapport à au montant qu'il a évoqué, les 50 millions qui constituent la ligne de crédit que nous avons pris des banques, ça aussi c'est faux.
Et vous avez pris combien?
Vous savez, aujourd'hui, non. Je voudrais, pour arriver à cela, il faut que je vous donne d'abord une idée par rapport à la structure financière de la ville de Kinshasa. C'est par rapport à cela que vous allez comprendre. Faut pas que nous puissions tomber sur des points évoqués comme ça, comme si par-ci par-là, et nous n'allons pas avoir une idée par rapport à l'architecture de la ville de Kinshasa. Voilà. La ville de Kinshasa, d'abord, a un problème lorsqu'il présente son budget. 80% de son budget, de ses ressources, doivent provenir de la rétrocession. Et de cette rétrocession, sur les 80%, il n'y a que 9% qui arrivent. Donc, vous allez constater que dans la présentation même du budget de la ville de Kinshasa, cela comporte même des germes de son échec.
Sur le 80%, il n'y a que 9% qui arrivent, réellement.
Réellement.
Et qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Ça, c'est au niveau du gouvernement central. Hein. Ça, ce n'est pas à notre niveau. Donc, nous, au niveau des fonds propres, les fonds propres représentent 20%. Nous nous trouvons sur le 20%.
20% du budget global.
Ça, c'est les fonds propres. Ça, c'est
dans la capacité locale, les recettes provinciales.
Propres. Donc, alors là. Par rapport à ces 80%, lorsque nous présentons les budgets, donc vous pouvez, comme nous sommes dans l'obligation de présenter les budgets en équilibre, donc les 80% sont ventilés en termes de prévisions de dépenses. Malheureusement, nous nous retrouvons avec certaines dépenses qui sont des dépenses obligatoires et contraignantes. Donc, dans l'exécution, vous allez constater que...
Les dépenses obligatoires, c'est notamment la paie des fonctionnaires?
Oui, prenons la paie des fonctionnaires, la paie du personnel politique, l'assainissement, parce que chaque jour vous devez évacuer les immondices au niveau de la ville.
Ah bon? Mais est-ce que vous évacuez? Parce qu'on est resté pendant plusieurs mois dans cette ville avec des décharges pleines qui ne sont jamais vidées.
Non. Les problèmes, vous savez, ça c'est un autre débat par rapport aux décharges. Mmh. Il y a un problème de civisme par rapport à la population. Vous avez des bacs, mais la population, au lieu de verser dans les bacs, ils déposent en dehors des bacs. Et vous avez tendance, lorsque vous passez, parce que vous n'avez pas le temps de vous arrêter.
Il y a un problème de civisme, mais aussi celui d'évacuation.
Non, les évacuations sont assurées. Les évacuations sont assurées, mais n'oubliez pas que nous sommes dans une ville de plus ou moins 14 millions d'habitants. Donc, par rapport aux moyens que nous avons 61 décharges que Paro nous a laissées. Et ça, c'est 61 décharges, c'est seulement pour les 9 communes. 61 décharges. Donc, nous devons évacuer au moins, faire 3 tours par jour pour que la décharge soit vide.
Alors, revenons à la répartition. Voilà, justement. Donc, vous avez parlé des 80% du budget global qui est affecté, n'est-ce pas, à la paie des fonctionnaires.
Non, j'ai dit ceci. 80% représente la rétrocession qui doit venir du gouvernement central. Et ce montant-là, il nous est transmis par le gouvernement central après l'adoption du budget au niveau du gouvernement central. OK ?
Oui.
Alors, lorsque le budget est adopté au niveau de l'Assemblée, par rapport aux deux chambres, on nous transmet les indications que nous reprenons dans notre budget. C'est une disposition constitutionnelle que nous respectons. OK ? Alors, dans l'exécution, par rapport à la ventilation des dépenses que nous faisons par rapport à cela, il y a des dépenses qui sont d'ordre prioritaire et contraignante. Donc, vous allez constater que les 20% que nous avons ici...
Et ces dépenses d'ordre prioritaire et contraignante, elles sont élevées à combien?
Non, je vous ai donné les différents éléments. Il y a la paie, il y a l'assainissement, il y a la sécurité, hein, il y a...
Ça c'est combien de pourcents par rapport au budget global de la ville de Kinshasa?
Les
dépenses contraignantes.
Les dépenses contraignantes. Vous avez les engagements prenant par rapport aux investissements.
Mm-hmm.
Prenant par rapport aux investissements. Nous sommes pratiquement à 35 à 45% mm-hmm. normalement que nous affectons au budget d'investissement.
Ajoutant cela, la paie des fonctionnaires.
Voilà.
Ça fait combien de pourcents?
La paie des fonctionnaires, la paie du personnel politique, la paie du personnel politique, et là nous tournons autour, prenons 10 à 12%.
Donc ça fait 45% en moins.
Non, 45% je dis pour les investissements.
Oui.
Oui.
Donc ça fait 55%.
Oui.
Alors, ça représente combien ça représente combien? C'est combien de en termes de dollars?
Non, moi je voulais que vous puissiez m'aider à terminer un peu les schémas que je suis en train de faire. À ce moment-là, vous allez comprendre la difficulté que nous avons. Donc là, lorsque les 80% ne sont pas libérés, ce sont les 20% qui prennent en charge les déficits des 80%. OK? Bon alors, s'il faut seulement s'en tenir au fonctionnement, vous risquerez de ne pas avoir des investissements. Or, nous sommes un gouvernement responsable. Le gouverneur a été élu par rapport à un programme. Il doit répondre à son programme et il doit répondre devant la population par rapport à son programme. Donc, il y a des investissements que nous devons faire. Comme nous ne recevons pas des fonds au niveau du gouvernement central pour les investissements, donc, les 20% qui constituent les fonds propres de la ville servent à couvrir les facilités que nous obtenons par rapport aux investissements.
Merci.
Vous comprenez?
Merci.
Alors, ce ne sont pas la totalité.
On a compris. On va vous donner la parole. Jonas Tchombela, vous êtes président de la nouvelle société civile du Congo. Et comment vous réagissez à cette situation?
Je suis surpris avoir ces chiffres et avoir même l'état même de la ville province de Kinshasa. J'ai suivi son excellence le ministre dire que cette dette elle n'est pas telle que votre collègue venait de le présenter à la hauteur de 50 millions. Mais on se demande qu'est-ce qu'il peut reconnaître comme dette, parce que là il n'a pas donné le chiffre qu'il reconnaît qu'il y a comme dette vis-à-vis de ses banques et de ses fournisseurs. Et s'il peut reconnaître cette dette, peut-il nous dire ça servit à quoi cet argent-là? Lorsqu'on observe ces décharges dont on parle, au lendemain du départ de l'Union européenne, la ville était une ville vivable, tout le monde le sait. Il y a des poubelles, même jusqu'à aujourd'hui, des décharges qui traînent encore. S'il y a un problème de civisme au niveau de la population, est-ce que son Excellence peut-il nous expliquer aussi le problème du civisme au niveau de la gouvernance, dans la transparence de ce qu'il y a eu comme recette au niveau de la ville? Mais à partir de quel moment ils se sont rendus compte que c'est le 9% qui arrive réellement? Pourquoi monter un budget de 80% qui doit venir au niveau, provenir au niveau du gouvernement central alors qu'on sait qu'on ne donnera que 9% c'est une inquiétude où c'est des chiffres et comment ils arrivent à s'en sortir avec à peu près 29%. Les fonds propres de la ville représentent 20%, comme il a dit. Et comment ils arrivent à s'en sortir avec la différence? Comment ils font pour que cela? C'est une grande inquiétude pour la population qui suit. Des dettes sont contractées auprès des banques et les banques qui commencent à se payer elles-mêmes et d'autres fournisseurs. Alors, nous voulons savoir clairement, ça servit à quoi concrètement? Ça, c'est une question. Bon, je ne suis pas journaliste, mais au moins, comme représentant de la population, nous avons quand même droit à la réponse. Lorsqu'on observe certaines routes de Kinshasa, certainement doivent être prises en charge au niveau du gouvernement de la ville-province de Kinshasa. On a parlé de l'assainissement. Est-ce que c'est à ce niveau que cela est pris en charge? Ou lorsqu'on voit tous ces éléments-là, il y a de quoi nous inquiéter pour dire que les députés de la ville-province de Kinshasa n'ont pas rendu à la population kinoise leur travail. Voilà, les voilà en grève. En grève, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont des problèmes d'arriérés. Alors la population, qu'est-ce qu'elle fera à la place? Ce sont des inquiétudes qui se partagent au niveau de la population. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils diligentent une enquête pour savoir un peu plus davantage cet argent, si ça existait réellement contacté comme dette, ça servit à quoi? Si ce n'est pas ce montant, comme le ministre vient de le dire, c'est quel montant et ce montant-là a servi à quoi? Voilà autant d'inquiétudes que soulève l'intervention de M. le ministre vis-à-vis des préoccupations qui sont posées au niveau de la dette qui est contactée, près de 50 millions.
Monsieur Jonas Tchoumbela, Monsieur le ministre, je vais vous redonner la parole. Les difficultés financières que connaît la ville sont une réalité, n'est-ce pas, qui se reflète sur le terrain. Vous avez parlé, les décharges ne sont pas vidées, les routes qui dépendent du gouvernement provincial ne sont pas entretenues. Et vous dites que les députés provinciaux n'ont pas rendu un bon service à la population. Mais maintenant, comment vous expliquez leur passivité? Parce que apparemment, le gouvernement provinciaux ont cautionné cette situation. On ne les a pas entendus, n'est-ce pas, dénoncer en utilisant leur pouvoir, n'est-ce pas, de contrôle, le pouvoir qui est reconnu par la Constitution.
Mais je crois que les députés, à ce moment-ci, normalement, ils n'ont pas rendu la mission. Et même, il y a une certaine complicité entre les députés et le gouvernement provincial. Parce que les choses comme ça ne devaient pas se taire. C'est des choses qui devaient déjà trouver solution. Parce que là, il y a un fonds sérieux qui ne devait pas être versé au niveau de la ville. Et les députés gardent silence. Le gouvernement s'appelle qu'elle vient de la prendre à partir de l'enquête de Radio Capi. Donc, il y a une certaine complicité que le gouvernement provincial aussi le député devait nous expliquer. Moi, je me souviens, il y a à peu près maintenant beaucoup d'années, lorsque le gouverneur Théophile Bemba était encore à l'hôtel de l'île province de Kinshasa, à l'époque, je travaillais sur un projet qui s'occupait des tracasseries dans les ports de la ville de Kinshasa. Et je me souviens que ce port-là, à l'époque, faisait déjà près de 31 millions de francs, de Maluku jusqu'à Kinsuka, c'est près de 52, si ça n'a pas changé, ports ou des entrées et des fonds. Et ces fonds-là, à l'époque, ça n'était pas déclaré au niveau du budget provincial. Il y a des sources de revenus qui devaient être multipliées, les sources de revenus, pour quand même que la ville représente l'image qu'elle doit représenter au niveau du pays. Et ce travail-là, nous avons l'impression qu'il n'a pas été assez très bien fait. On s'est contenté des recettes qui doivent venir du gouvernement et des fonds propres. Et là aussi, que nous sachions, les fonds propres proviennent de quoi et de comment ça s'obtient. Voilà, il y a autant de zones d'incertitude et d'ombre qui nécessitent quand même que l'Assemblée de la ville-province de Kinshasa se réveille et puisse éclairer la population de qui ils ont reçu le mandat.
Monsieur Jonas Tchoumbela, vous expliquez par ces situations par notamment la complicité entre le gouvernement provincial et les députés provinciaux. Et quelle est la part de la société civile dans tout ça? Pourquoi la société civile, elle non plus, et l'Assemblée restée passive?
Je crois que la société civile, lorsque vous observez à plusieurs niveaux, dans un système où on ne peut pas associer, parce que normalement, à un niveau de budget participatif, la société civile devait travailler comme nous travaillons dans certaines communes, où nous aidons le bourgmestre, le chef de quartier, comment on peut mobiliser les fonds pour améliorer les conditions de vie de l'environnement où ils vivent. Ce travail-là, nous avons l'impression que la société civile n'est pas associée pour voir comment on peut les aider à multiplier les possibilités de mener le plaidoyer auprès du gouvernement central ou la possibilité de multiplier les économies pour diversifier l'économie et trouver comment on peut obtenir des recettes à ce niveau-là. Et nous avons l'impression que, et même s'il y a une enquête qui peut être vigilantée par la société civile, certainement elle sera bloquée. Parce Merci. Que lorsqu'on voit les méthodes et la manière dont les choses se font, entre l'Assemblée qui est censée faire le travail, qui est l'autorité budgétaire, on se demande si la société civile qui est une structure privée, si ça pourrait passer.
Merci Israël Moutala, vous êtes analyste politique et économique. Comment vous analysez cette situation?
Je reste un peu sur ma soif. J'aimerais beaucoup écouter Monsieur le ministre de la ville-province parce que il a parlé en termes de il a donné des structures. Il a dit que la structure de son budget est de 80% des ressources à caractère national qui doivent découler de la rétrocession du gouvernement et de 20% en fonds propres. Mais 80%, ça représente combien de millions de dollars à peu près? Il faut que nous ayons une idée générale du budget de la ville pour que justement nous nous projetions dans ce que il y a comme défi pour faire une analyse plus ou moins exacte. Ça veut dire que le budget de la ville de Kinshasa, si on nous dit qu'il est de 100 millions de dollars, on comprendra là que sous les 100 millions de dollars du budget, 80 millions doivent émaner de la rétrocession et 20 millions doivent être mobilisés par la ville en termes par la DGRK et tout ça. Donc voilà à peu près. Mais on n'a pas ce chiffre. Ça veut dire que il faut que nous ayons ce chiffre parce que j'ai vu, il y a eu des budgets qu'on avait justement qu'on a projeté pour à peu près à 300 millions de dollars, mais je crois que la réalisation c'était moins que ça. Et donc ce sont des chiffres clés. Mais je vais être bref sur cette question. J'aimerais plutôt entendre encore là-dessus Monsieur le ministre provincial de Finances pour rebondir après. Mais déjà, je constate qu'il y a un échec dans la stratégie de mobilisation de recettes. Ça veut dire que on ne peut pas, connaissant le gouvernement, s'appuyer justement sur la rétrocession. Donc, l'accent devait être mis sur les fonds propres. Donc moi je pense que...
Et il a même dit, sans pour autant vous interrompre, il a même dit que la ville de Kinshasa et les Congo central ont les taux les plus élevés des recettes locales, donc les recettes provinciales. Et donc ces deux provinces peuvent se passer, n'est-ce pas, de la rétrocession. Ils peuvent, avec ce qu'il faut comme recette sur le plan local, et arriver à couvrir toutes les dépenses, sans pour autant dépendre du gouvernement central.
Écoutez, vous avez un gouvernement provincial qui est là depuis 10 ans. Mais 10 ans, on connaît le gouvernement, on prévoit, on a prévu dans la première année budgétaire. La rétention n'a pas suivi. La seconde, la rétention n'a pas suivi. Voilà, et ainsi de suite. Et donc, par rapport à ça, vous changez le paradigme de mobilisation de recettes. Vous dites, non, dans ce cas, nous faisons comme si, par exemple, la disposition constitutionnelle qui dit que 40% des recettes à caractère national doivent revenir aux provinces, vous la zappez et vous vous focalisez sur les 20% de recettes. Et vous faites la base de votre budget. Et donc, mais vous avez des éléments pour mobiliser des recettes de manière suffisante. Parce que dans les 20% des recettes propres de la ville, il y a un impôt important. C'est l'impôt foncier. L'impôt foncier, c'est une véritable mine d'or. Ça veut dire que si cet impôt est suffisamment encadré, collecté, et il peut donner à la ville de Kinshasa des moyens importants. Il y a un autre impôt qui est important dans les 20% des recettes propres, c'est l'impôt sur les revenus locatifs. Donc, la majorité des Quinois, moi le premier, sommes locataires.
Et donc, dans mon entourage, mes amis, nous sommes locataires. Et donc là aussi, nous avons une retenue de 2% et puis il y a 22%, donc 20 et puis 2 chaque mois. Bref, c'est aussi une importante source de revenus. Et après, il y a les différents droits de consommation sur les boissons sucrées, les boissons alcooliques et puis la farine. Bref, moi je pense que surtout sur l'impôt foncier et sur tout ça. Donc c'est là
juste ajouter toutes les taxes et perçues dans l'informel. Hein?
Ça devait être le cœur justement de la mobilisation. Et donc par rapport à ça, moi je comprends. Ça veut dire que vous avez la structuration de votre budget autour de 80% en attendant la rétention de l'État. Ça ne viendra pas. Là directement, c'est un échec de tout le plan de développement de l'entretien de la ville. Donc, avec la structuration du budget comme ça, impossible de réussir, vu l'immensité de la ville, vu la tâche, vu la population, on ne peut rien faire avec le budget tel qu'il est structuré comme ça. Impossible. Et donc, on comprend pourquoi est-ce que la ville a des sérieuses difficultés. On comprend pourquoi est-ce que... Parce que la ville a des prérogatives importantes. La santé, c'est la ville. C'est le monsieur ministre de Finances qui doit mobiliser l'argent pour que mes enfants aillent à l'école gratuitement. C'est constitutionnel. C'est monsieur le ministre ici qui doit proposer des plans pour financer la santé. C'est monsieur le ministre ici qui doit envisager comment il mobilise les recettes pour me faciliter le déplacement. Je me réveille chez moi à Rigny, comment j'arrive en ville en 30 minutes. Ce sont ses prérogatives. L'agriculture, le gouvernement provincial a des prérogatives immenses, immenses. Mais la structuration telle qu'elle est ici, impossible. Et donc, mais là, il faut parler avec les Quinois. Et donc, il faut de la transparence. Il faut que les Quinois sachent que non. Vous voulez une meilleure qualité de service public, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est le civisme fiscal. Mais ce civisme fiscal doit être encouragé par la qualité de la vie des dirigeants publics aussi. Il faut que le gouverneur de la ville nous dise, voilà, moi je gagne autant, je gagne 5 000 $ par exemple le mois ou 10 000, je paye mes impôts, voilà, je paye tel... Il faut qu'il joue la carte de la transparence à fond. Parce que nous sommes dans un pays où la population estime que tous les dirigeants sont des voleurs. Il faut casser ce paradigme. Il faut justement jouer la carte de la transparence à fond.
Et donc si de la part de l'autorité provinciale, il y a cette transparence, les habitants pourraient se sentir motivés, n'est-ce pas, pour payer leurs taxes et leurs impôts.
C'est une question de mentalité. Les gens pensent que les dirigeants nous volent, nous exploitent. Donc, mais il faut maintenant justement développer une communication autour de l'argent qui soit transparente et qui incite les Congolais, les Quinois, à payer. Mais alors là, avec la structuration comme elle est là, merci. J'aimerais vraiment beaucoup entendre le ministre de Finances.
Monsieur le ministre de Finances, Guy Matondo, vous avez suivi les interventions des Jonas Tchombela et Israël Moutala. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces interventions?
Évidemment, oui. Je voulais d'abord... je prends l'intervention de...
Moutala?
Oui, de Moutala. C'est vrai. En fait, ce n'est pas que dans la structure, lorsque nous élaborons le budget... Nous travaillons en termes de pourcentage. Non. En fait, par rapport à la présentation de notre budget, les indications que nous présentons par rapport aux ressources propres, lorsque nous recevons les indications du gouvernement central, cela nous donne un rapport de 80-20%. Donc ce n'est pas que la structure du budget du gouvernement provincial, elle est de 80 et 20%. Non, non, c'est pas comme ça. C'est en fait, aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver avec 80-20. Demain, nous pouvons nous retrouver avec 40-60.
Vous comprenez?
Ça dépend des indications qui viennent du gouvernement central. On fait les rapports par rapport à ce que nous
Monsieur le ministre Guy Matondo, vous n'avez pas reconnu les chiffres de 50 millions de dollars.
Non, j'arrive.
Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à cette préoccupation?
Non, il n'y a pas 50 millions.
Voilà, il n'y a pas 50 millions, mais il y a combien?
Il n'y a pas 50 millions.
Il y a combien?
Il ne faut pas que...
Est-ce que le gouvernement provincial s'est endetté auprès des banques?
Allons doucement. Il n'y a pas de dette.
Il n'y a pas de dette.
Ce sont des facilités de caisse. Facilités de caisse, c'est-à-dire comment? Lorsque, il vous a dit, notre ami l'avocat, il faut une bonne stratégie. Quelle est la stratégie? La stratégie est que lorsque j'ai une recette qui va me donner 10 000 francs, ok? Et que j'ai un projet de 6 000 francs. Mais les 10 000 francs, je les aurai dans 6 mois, ok? Mais j'ai besoin de ces projets-là dans les 3 mois. je vais voir une banque, j'ai dit à la banque, voilà, voilà cet acte-ci, me rapporte dans les 6 mois 10 000 francs. Mais j'ai un projet, voilà, un projet, un investissement de 6 000 francs. La banque finance les projets parce que l'entrepreneur, l'investisseur doit être payé pour qu'il puisse travailler. Et dans les 6 mois, la banque, par rapport aux recettes qu'il encaisse, paye se fait payer. Ce sont des facilités, il n'y a pas de dette. Et en plus, vous, avec ce système-là, comprenez que lui, il est analyste, il peut comprendre que nous ne pouvons pas avoir une dette de plus de 50 millions. Lorsque vous avez les capacités de 2 milliards, 3 millions, comment vous pouvez vous endetter à 50 millions?
Mais c'est impossible. Mais ministre, il y a déjà une réaction qui vient de Kinshasa.
Laissez-moi terminer. C'est important. Il ne faudra pas que nous puissions laisser l'impression aux autres. Je suis en face de deux personnes qui passent 6 minutes. Notre ami vers Sauté Civil, je suis désolé. La ville de Kinshasa, depuis que je suis là, depuis 2009, et je suis passé dans les télévisions, même si ici à la radio Capi, où j'ai dit, nous sommes en train de gérer les fonds publics. Tel que notre ami l'a dit, ce sont les fonds publics de l'État, la population. Donc, vous venez chez moi, lorsque vous avez besoin d'avoir une information sur la gestion de la ville, nous sommes ouverts. Raison pour laquelle, lorsque même les gens parlent de l'ouverture de 180 comptes au niveau de banques, dans la vie de Kinshasa, justement c'est pour donner les indications aux Congolais, aux Kinois en particulier, pour savoir, par exemple, prenons s'ils veulent avoir une idée sur les recettes générées par les parkings. Les fonds sont orientés dans une banque. Il n'y a pas une confusion. Aujourd'hui, si lui, il veut faire des analyses financières sur les comportements des actes dans la ville, il aurait beaucoup plus de facilité. Au lieu qu'il se retrouve dans une banque, on lui donne un accordéon où il doit déceler les différents actes. Mais nous orientons les actes par rapport aux banques.
Voilà, il y a cette question qui vient de Kinshasa.
Alain Bouloudjoua, depuis Kinshasa. Il est de pratique dans la gestion des entités comme celle des institutions publiques ou privées de recourir aux découvertes bancaires ou à tout autre mécanisme d'emprunt pour répondre aux besoins pressants dans l'espoir des versements futurs. Néanmoins, la question fondamentale reste celle de savoir à quoi ont servi tous ces fonds. Il est par ailleurs surprenant que Kinshasa, dont le potentiel en termes d'impôts, redevances et taxes, est aussi important, puisse se victimiser autant. Ne serait-ce pas un déficit de management clairvoyant dont le maître mot reste la gestion rationnelle des ressources ou encore de la limitation d'une gouvernance routinière étant donné que ce gouvernement est aujourd'hui marqué par la loi des mesures compte tenu de la durée.
Monsieur le ministre Guy Matondo.
Vous savez, nous allons parler de l'impôt. L'intervenant, je ne sais pas. Vous savez, il peut nous dire aujourd'hui quel est son poids fiscal dans la ville de Kinshasa. C'est ça être citoyen, c'est ça être un citoyen de la ville, c'est un citoyen d'une république. C'est bien de parler, mais aujourd'hui, il faut qu'on sache combien je pèse dans les budgets de la ville.
Voilà.
Mais il a bien dit. Laissez-moi terminer, mon frère. Vous ne me laissez pas terminer. Vous ne me laissez pas terminer. Il ne faut pas aller dans les on-dit. Vous êtes journaliste. Laissez-moi terminer. Je suis en face d'un analyste. Je crois qu'il comprend. Il dit l'impôt foncier, la retenue locative. Il a bien dit où on est locataire, où on est propriétaire. Il parle de management. Nous avons peut-être qu'il n'est pas informé. Nous avons un arrêté où nous avons tenu compte de la capacité financière de chaque quartier au niveau de la ville. Où vous avez des taux qui vont de 6 000 francs à 300 000 francs. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont dans des quartiers, entre guillemets, socialement, avec une faible, avec un faible revenu. Donc, ils payent 6 000 francs.
Merci.
Donc, mais le problème, c'est que les pays ici, depuis 1967, avec le boom du cuivre, l'ancien régime ne nous a pas nous a pas éduqués sur le plan du civisme fiscal. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. Il a bien dit, il faut faire des démonstrations pour que la population puisse vous accompagner par rapport à ces paiements-là.
Merci, monsieur Jonas Tchombela. Il y a une question qui vous est adressée aussi. On va suivre cette question qui vient de Mbandaka.
C'est monsieur Benjamin Nizanza depuis Mbandaka. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial ont formé un club d'amis et comme conséquence, le contrôle parlementaire n'existe plus. Remarquez avec nous que 4 mois d'arriéré de salaire sans suite, on joue avec les députés comme s'ils demandent service, soit de l'aide. C'est un mode de gouvernance au Congo démocratique au profit des gestionnaires.
Oui, Jonas Tumela.
Ah, mais merci beaucoup pour la question, cher compatriote Mbandaka. Je pense que vous êtes tenté de rejoindre ma préoccupation de tout à l'heure que je tentais déjà d'évoquer, qu'il y a une certaine complicité entre l'Assemblée de la ville ainsi que le gouvernement de la ville à partir du moment où ils sont face à des situations très difficiles, mais le silence semble indiquer qu'il y a une certaine complicité. Donc il rejoint ma préoccupation de tout à l'heure qui a élucidé cela. Et même dans le cas, pour revenir à monsieur le ministre, dans le cas où il a dit que ce sont des facilités qu'ils ont eues auprès de la banque, mais c'est à rembourser quand même ces facilités. Il faudra quand même qu'on y passe. Effectivement, nous devons travailler sur la question du civisme, mais aussi ceux qui gouvernent doivent être des modèles. Payer, avoir les vignettes, on voit combien le vécu de ceux qui gouvernent, ils n'ont pas de plaques. Mais on nous demande d'avoir des plaques, des petites vignettes, ils ne les ont pas, nous on les a. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent, d'être modèle pour donner l'impulsion. Je crois qu'il y a aussi du civisme qu'il faut faire du côté des gouvernants. Et ça pourrait aider de manière que la population puisse participer, parce qu'ils voient déjà que ceux qui dirigent sont en train de devenir le modèle et donnent déjà eux-mêmes les coups d'envoi. C'est ça le vrai problème. Donc la question a été déjà évoquée même par Israël tout à l'heure en disant qu'ils doivent être le modèle pour que finalement la population puisse suivre. Lorsqu'on voit les fonds qu'on ramasse, il y a eu dans la ville de Kinshasa ici, le contrôle technique qui a été organisé, on a paralysé la ville. Mais ça servit à quoi cet argent? Parce que les véhicules ont été contrôlés techniquement mais n'ont jamais été réparés. Et l'état des routes elles-mêmes, elle est restée telle qu'elle était. Vous voyez, des choses comme ça découragent. Ce qui n'est pas normal. Nous devons encourager que la population participe, mais en même temps, ceux qui dirigent doivent aussi le faire en toute responsabilité pour que, finalement, ce soit un bien partagé et collectif et concerté en même temps.
Oui, Israël Moutala, il y a aussi une question qui vous adressez, elle vient de Lumbashi.
Ensemble, Lula de Lumbashi. Cette situation, c'est une photosynthèse de la gabegie financière dont aucune institution, à quel degré soit-il, n'échappe. Aussi, l'inefficacité totale de tous les services chargés du contrôle, en commençant par les inspecteurs financiers, les députés et la Cour des comptes, y compris les procureurs généraux de la République.
Israël Moutala.
Bon, nous avons un problème général de gouvernance. Et parfois, moi, j'ai peur quand je regarde notre société. Nous voulons nous développer, nous voulons être émergents, nous voulons, mais on n'est pas en mesure d'en payer le prix. Parce que justement, l'excellence a un prix. L'excellence a un prix. Et en tant que peuple, en tant que nation, je scrute nos mentalités. On n'est pas encore mûr au développement. Parce que il faut un minimum de civisme et de la part de gouvernants, surtout. Et surtout aussi la part de gouverner. Et cette question, elle est centrale. Une fois, je plaisantais avec une autorité, je lui disais, moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens se bousculent pour être pour occuper des postes de responsabilité. Mais les charges sont tellement importantes, il y a très peu de recettes. Mais comment se bouscule? Parce qu'il n'y a pas de solution à apporter. Donc si on te dit dans ces conditions, on donnerait à n'importe qui la ville de Kinshasa, et bien, tant que la mentalité par rapport à l'impôt n'a pas changé, tant que celui qui est par exemple à Kisseso ne veut pas payer l'impôt foncier de 1000 francs ou de 2000 francs, que l'on change la tête de X ou de Y, il n'y aura aucun changement. Donc c'est en nous, d'abord en tant que peuple, de nous interroger sur ce qu'on veut. L'État, ça ne dort pas et ça se réveille, l'argent tombe du ciel. Non, c'est le fruit de notre labeur que chacun maintenant nous prenons, nous apportons au panier commun qu'on appelle budget. Mais il faut que, encore une fois, la question du développement est d'abord d'ordre mental.
Et donc tant qu'on n'aura pas... Comme vous l'avez préconisé, il sera difficile d'échanger les paradigmes des mobilisations des recettes à partir du moment où la population elle-même ne s'implique pas, n'est-ce pas, dans cette démarche.
Il faut une rupture. Mais moi, je suis du côté de la population. Ça veut dire que la population, voilà, il y a des gens qui paient la vignette, il y a d'autres qui ne la payent pas. Donc, les efforts de ceux qui ont payé la vignette sont annihilés par ceux qui ne l'ont pas payé. Par ceux qui ne l'ont pas payé, ne permettront pas ce que les routes soient entretenues. Et donc, moi, quand je suis dans ma voiture, que voilà, je roule sur une route où il y a plein de nids de poules, je me fâche. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je paye la vignette. Donc, nous sommes un pays dirigeant comme dirigé des inciviques comme pas possible. Et je laisse à relever la question de plaques d'immatriculation. Il faut qu'il y ait, les autorités ne doivent pas marquer leurs plaques d'immatriculation ils doivent avoir des plaques identifiables. Donc, c'est une question profonde. Vous voyez la ville de Kinshasa, elle est baignée par plusieurs rivières. Il faut les curer. Vous imaginez un peu comment est-ce que pour curer ou assainir. Après, je dis il faut qu'il y ait des chiffres. Qu'on nous dise, par exemple, l'entretien d'un kilomètre de bitume, ça coûte combien? Envoyer 100 enfants ou 1000 enfants à Kinshasa à l'école, ça coûte combien? Parce que la gratuité, ça n'existe pas. Quand on parle du concept de la gratuité, ça veut dire que d'autres payent. Il doit y avoir un impôt. Envoyer quelqu'un, par exemple, pour le soin primaire, malaria ou par exemple les accouchements, pour 1000 femmes, ça coûte combien? Il faut que les gens aient la culture des chiffres budgétaires.
À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour...
Tant qu'on n'a pas ces éléments d'appréciation, d'analyse, c'est complexe.
Et qu'est-ce qu'il faut pour, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, permettre à cette ville de pouvoir exploiter ses différentes potentialités, hein? On dit que la ville regorge d'énormes potentialités et qu'elle n'arrive pas à exploiter comme il se doit. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis?
Par rapport, ça veut dire d'abord, nous partons du principe selon lequel, d'abord, qu'il y a des potentialités, mais nous sommes pauvres. Ça veut dire que même si vous regardez un peu les recettes des sociétés brassicoles, elles baissent. Parce que même les recettes de la ville dépendent de la croissance économique. Et donc, il y a ça, il y a la politique au niveau supranational, il faut des bonnes politiques économiques qui incitent la croissance économique. Parce que on avait des taux de croissance de 8, mais là nous sommes descendus à 4. Ça veut dire qu'il y a des implications budgétaires. Donc les gens boivent moins de coca ou de Fanta, et donc ça veut dire moins de taxes pour la ville. Et donc ça se tient. Donc voilà pourquoi je dis que la question de développement, c'est une question très sérieuse. Ça se trouve à l'échelon national, à l'échelon provincial, à l'échelon local. Parce que même les bourgmestres, ça fait partie de la ville de Kinshasa. Dans nos quartiers, comment est-ce qu'on gère les recettes de marché? Et comment est-ce que sur le quartier, même celui qui a des... paie sa patente. Bref, ça se tient. Ça se tient. Donc, tant que tout le monde ici boit de l'eau...
C'est un problème lié au système.
Tant que quelqu'un boit de l'eau, il prend son sachet, il le jette en cours de route, et il ne sait pas comment est-ce qu'il va ramasser. La personne qui doit ramasser, on doit le payer.
Et la conclusion?
Donc, si je te dis, c'est une question difficile. Mais j'aimerais, en tout cas, une fois, que, profitant de la présence du ministre ici, qu'il nous donne un peu le budget d'abord, le chiffre. J'aimerais avoir une idée, comme on l'a sur le plateau, le chiffre. Le budget de Kinshasa, l'année passée, il était de combien? Et cette année, c'était quelle cible?
Merci. Monsieur le ministre, pour répondre, monsieur le ministre, le budget est estimé à combien l'année passée, cette année?
Je voudrais, cette année, on n'a pas encore... Nous sommes en train d'élaboration du budget pour 2017. Pour 2016, avant les 30% qu'on pousse, des 30%, on était à plus ou moins 387 milliards.
Des francs congolais?
Oui, pratiquement 200.
Ça, c'est l'année dernière. Hein?
Oui, oui. Donc, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je crois que c'est ça. La rétention représentait plus ou moins 290 quelques...
Voilà. Et à votre avis, qu'est-ce que vous préconisez, n'est-ce pas, pour que la ville puisse relever les défis qui sont devant elle?
Oui, c'est ça que je...
Attends, votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Ok, voilà. Le problème, c'est que j'ai rejoint encore notre ami, notre frère analyste, hein, Boutala, qui a fait une très bonne analyse. En fait, tout le problème, c'est que, et les gouvernants et les gouvernés, nous devons travailler ensemble. À quelque part, nous devons avoir des points de vue convergents pour que nous puissions développer notre...
Une civilisation, une prise de conscience.
Voilà. Je voudrais relever ici aussi...
La conclusion, monsieur le ministre, nous sommes à la fin de l'émission.
Il faudra que les analystes économique, il faudra que la société civile ne puisse pas intervenir sans qu'ils aient des données.
Est-ce que vous mettez ces données à la disposition de tout le monde?
Mais moi, j'ai une cellule financière et fiscale qui est mise à la disposition de tout le monde. Il y a même des étrangers, des gens qui viennent du Canada, qui viennent chercher les données ici.
Merci.
Donc
merci.
Je pense que si la société civile, si notre frère était venu nous voir, il n'aurait pas cette impression. Merci. On a l'impression que l'Assemblée ne fait pas ce travail, l'Assemblée travaille.
On a parlé de la complicité entre vous et l'Assemblée.
Non, l'Assemblée est au courant
de ce qui est fait. Monsieur Tomela, votre conclusion.
Oui, nous encourageons que le gouvernement puisse travailler avec toute la communauté, aussi dans la transparence. Nous encourageons également la population de payer ce qu'elle doit payer, mais ceux qui gèrent doivent aussi rendre compte de ce qu'ils gèrent au nom de la population.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique. Merci à Alain Irong, Berry, Franklin Louis Tchaka, à la présentation Guy Maquet. Merci à vous aussi de programme sur Radio Capi.